Portrait de femme de notre matrimoine, c'est tout de suite avec Jacqueline Engrave, enfin, proposé, réalisé, animé par Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires. Aujourd'hui, Blanche de Castille pour ce 24e portrait de femme. Bonjour Jacqueline.
Oui, bonjour Odile, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Fréquence Mistral. Oui, pour ce 24e portrait de cette deuxième série, nous présentons une reine de France, politicienne hors pair du XIIIe siècle, Blanche de Castille. Fille du roi Alphonse VIII de Castille, en Espagne, elle est née en 1188 à Palencia et sa grand-mère est Aliénor d'Aquitaine, dont nous avons fait le portrait, le 7e de cette série. C'est d'ailleurs Aliénor d'Aquitaine qui, à 80 ans, va chercher à la cour de Castille Bianca de Castille comme épouse du prince Louis, fils de Philippe Auguste et héritier du trône. Blanche et Louis se marient le 23 mai 1200 en Normandie. Elle a 12 ans, il en a 13. Pendant 23 ans, jusqu'en 1223, elle vit à la cour de Philippe Auguste, son beau-père, dans un milieu hostile à son égard, ce qui contribue à lui former le caractère. Elle a 12 enfants, 10 garçons et 2 filles. 5 seulement survivront, dont Louis, le futur Saint-Louis. Mais devenue reine en 1223, à l'avènement de son mari Louis VIII, elle va alors participer activement au gouvernement tout en s'occupant de ses enfants. Veuve à 38 ans, en 1226, elle est désormais seule au pouvoir, exerçant la régence pendant plus de 8 ans au nom de son fils Louis IX, âgé de 12 ans, qu'elle fait sacrer roi de France à Notre-Dame de Reims. Blanche est une catholique pratiquante, mais son catholicisme n'a rien de la bigoterie. Elle a la volonté farouche de conserver l'autorité royale parce que celle-ci est héritée de Dieu. Elle doit donc affronter les barons, les grands du royaume, qui, eux, n'entendent pas être gouvernés par une femme, une étrangère, qui plus est, l'espagnole, comme ils l'appellent. Elle supporte les injures, les calomnies, les attaques contre sa vie privée. Il faut dire qu'une partie de la littérature théologique médiévale est remplie d'affirmations misogynes, telles par exemple celle-ci, je la cite, « La femme est un mâle déficient, conjuguant l'imbécilité physique et la débilité mentale. »
Je suppose que ça vous fait beaucoup rire, oui, cette caricature.
Oui, ça fait rire et on croirait entendre le code civil. Donc, les puissants barons se liguent contre elle pour s'emparer du gouvernement. Certains se rallient à elle, elle impose sa volonté aux autres, mais Hugues X de Lusignan et le duc de Bretagne, Pierre Mauclair, complotent d'enlever le jeune roi Louis IX. Alerté par Blanche, la population parisienne vient le chercher et l'escorte jusqu'à Paris. Le complot a échoué. Par sa volonté, son intelligence et son sens aigu de la politique, Blanche est venue à bout de plusieurs révoltes des barons. Autre révolte, religieuse celle-là, celle des cathares. D'abord sous le règne de son mari, qu'elle influence, puis pendant sa régence, et encore sous le règne de son fils, Louis IX, eurent lieu les guerres contre les cathares. Le mot cathare vient du grec kataros, K-A-T-H-A-R-O-S, qui veut dire pur. Le catharicisme est une religion nouvelle qui s'oppose au catholicisme, condamne l'Église romaine et sa hiérarchie, ses fastes et son goût du luxe, parce qu'elle ne respecte pas les idéaux du Christ, c'est-à-dire l'humilité, la pauvreté, etc. Les catholiques voient cette religion comme une hérésie dangereuse pour l'Église et pour l'ordre royal. Elle s'est développée rapidement dans le sud de la France, Albi, Toulouse, Carcassonne. On appelle ses adhérents les albigeois. Ils méprisent la mort, pratiquent une morale austère, condamnent même le travail. C'est donc une véritable croisade, une guerre dite sainte que mènent les envoyés de l'Église, les seigneurs et l'armée royale contre les albigeois. Elle se termina par le traité de Meaux-Paris en 1229, mais la guerre de la France du Nord, c'est-à-dire de l'autorité royale, contre la France du Sud, personnifiée par le comte de Toulouse, ne se termina qu'en 1243. Ce fut la fin de l'Occitanie indépendante et du catharisme. Louis IX est majeur en 1234 à 20 ans. Blanche a veillé à ce qu'il reçoive une éducation pieuse. Elle l'a confiée à des moines dominicains et franciscains et a participé elle-même à cette éducation. Pratiquant une politique matrimoniale habile, elle le marie à Marguerite de Provence, fille de Raymond Béranger IV, comte de Provence, mais son amour maternel possessif entraîne des conflits avec une belle-fille qu'elle jalouse. Quand Louis IX prend la direction du gouvernement, Blanche reste à ses côtés une conseillère avisée, menant avec son fils une véritable co-royauté. Elle lui inspire ses décisions qui vont peu à peu contribuer à faire passer la France d'une monarchie féodale à une monarchie moderne de droit divin. Elle tempère les excès de zèle religieux du roi, le roi qui, relayant dans sa pratique politique l'idéal de labeur, de travail et de moralité de la chrétienté, est porté à pourchasser les hérétiques, les juifs, les oisifs, les chômeurs, les vagabonds. Voici comment il légifère froidement. Je cite « Si certains n'ont rien et sont en ville sans travailler, et hantent volontiers les tavernes, que la justice les arrête et leur demande de quoi ils vivent, et qu'elle les jette hors de la ville. » Malgré son influence, Blanche ne peut dissuader son fils de quitter la France pour entreprendre en 1248 une ruineuse et désastreuse septième croisade. On a vu ce que sont les croisades dans le portrait d'Aliénor d'Aquitaine, au cours de laquelle il est fait prisonnier en Égypte. Il a confié le royaume à sa mère, son épouse l'ayant suivi dans cette expédition. Pendant son absence, qui a duré 6 ans, et jusqu'à sa mort en 1252, Blanche de Castille a donc de nouveau gouverné. Elle a réussi à maintenir la cohésion du royaume face à des troubles sociaux comme le mouvement des pastoureaux, un mouvement de paysans qui, vers 1250, formèrent des bandes afin de partir délivrer Louis IX, mais leur action dégénéra en brigandage et en tuerie. Un aperçu de son œuvre, seulement un aperçu. En 1229, elle a permis le traité de Meaux-Paris précité qui a mis fin au conflit albigeois. Elle relaie l'œuvre réformatrice de Bernard de Clairvaux et fonde les abbayes de Royaumont, près d'Asnières-sur-Oise, en 1228, de Maubuisson, près de Saint-Ouen-l'Aumône, en 1236, et de la Lys, une rivière qui passe à Armentières, en 1244. En 1230, Blanche et Louis font réaliser la forteresse d'Angers face à la Bretagne indépendante. Et en 1248, le roi fait restaurer l'Hôtel-Dieu de Paris et c'est Blanche qui en surveille l'avancement pendant que Louis est en croisade. En 1251, elle installe dans l'abbaye de Juilly un orphelinat pour les enfants des croisés morts en Terre Sainte. Elle est la véritable inspiratrice des grandes mesures du règne de Louis IX dans les domaines économiques, intellectuels et artistiques notamment. Elle meurt en 1252 à Melun à l'âge de 64 ans sans avoir revu son fils qui ne retrouvera la France que 2 ans après sa mort. Elle est enterrée selon ses vœux à l'abbaye de Maubuisson. Son cœur est transporté plus tard à l'abbaye de la Lys. Ce que l'histoire a retenu de Blanche de Castille, c'est qu'elle est la mère de Saint-Louis, comme si c'était son seul mérite, une image très réductrice. En réalité, elle a mené une politique décisive en tant que régente, avec une compétence qui n'avait rien à envier aux hommes. Personnalité remarquable, cultivée, volontaire, intelligente, dotée d'un sens aigu de la politique, combinant l'emploi de la force, de l'intimidation, de la négociation, elle a dirigé fermement le royaume. Elle est la vraie inspiratrice des grandes mesures du règne, dont le mérite a été attribué exclusivement par les chroniqueurs à Saint-Louis, gommant l'action de Blanche de Castille et l'effaçant de notre mémoire collective parce qu'elle était une femme. Les grandes chroniques de France lui ont décerné cet hommage ambigu. Je cite « Femme par le sexe, mâle par les desseins, c'est-à-dire les projets. » Elle gouverna, non par vertu féminine, mais courageusement, comme si elle était un homme. étrange éloge pour celle qui a contribué à écrire l'histoire de France, une femme exceptionnelle de notre matrimoine, à l'instar de sa grand-mère Aliénor d'Aquitaine. Il y a quelques établissements qui sont nommés Blanche de Castille, un collège à Le Chesnay, près de Versailles, qui porte son nom, un autre collège à Nice aussi, et puis à Paris, dans le jardin du Luxembourg, parmi une vingtaine de statues érigées à partir de 1843 par Louis-Philippe pour honorer les reines de France, figure celle de Blanche de Castille. Voilà.
Les sources.
Les grands dossiers des sciences humaines, numéro 49, ces pionnières qui ont fait l'histoire, décembre 2017, janvier 2018, l'article de Georges Minois, la civilisation de l'Occident médiéval de Jacques Le Goff, collection Les grandes civilisations, édition Artaud, 1972, le Moyen-Âge, collection littéraire, La Gare des Michards, édition Bordas, 1963. Et puis un extrait de Blanche de Castille, la biographie de Georges Minois, historien, 2018, édition Perrin.
Merci Jacqueline pour ce beau portrait et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Bonne journée à toutes et à tous.
Au revoir.
Au revoir.